But that's folk music for you. Folk music, it does this all the time.
You see, the songs, though, is what I do.
Does anybody have another guitar?
A message? You mean, like, what song with a message?
You're all gonna get the fuck out of here and never come back.
Merci.
France Inter.
RTBF La Première.
Mishka Assayas. Very Good Trip. Bob Dylan.
Don't boo me anymore.
Okay.
Aujourd'hui, on retrouve le même homme. Bien sûr, vous savez qui c'est. Vous allez l'entendre. Il a une toute autre voix. Et ça, forcément, vous connaissez, mais sans doute par quelqu'un d'autre.
There must be some way out of here, said the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Et voilà, en 2 minutes 30, tout est dit. Bien sûr, cette chanson qu'on vient d'entendre, All Along the Watchtower, on la connaît surtout grâce à la version qu'en a enregistrée Jimi Hendrix début 1968. L'influence de Bob Dylan sur Hendrix est d'ailleurs beaucoup plus grande qu'on l'imagine. Elle ne se réduit pas à la simple reprise que Hendrix a faite de cette chanson, de la manière éblouissante qu'on connaît. Au fond, c'est simple, et d'ailleurs il l'a dit, sans l'exemple de Dylan, Hendrix n'aurait jamais osé chanter à sa façon. Et comme celui-ci l'a alors déclaré, je cite ses propres paroles, « Je suis comme Dylan, ni l'un ni l'autre, on est capable de chanter normalement. » Mais ce sont également les paroles des chansons de Bob Dylan qui l'ont subjugué, je cite à nouveau Hendrix, « Dans les chansons de Dylan, on trouve toutes les joies et toutes les peines de la vie. Elles me ressemblent tellement que j'ai l'impression que c'est moi qui les ai écrites, sauf que je ne serais jamais arrivé jusqu'au bout. » On a découvert All Along the Watchtower dans un album paru au début de l'année 1968, un album qui ne ressemblait à rien de ce que Bob Dylan avait enregistré jusqu'ici. Un album qui, d'une certaine façon, était à contre-courant dans la période. Son titre en était John Wesley Harding. D'après la chanson qui en était l'entrée en matière, c'était le nom d'un hors-la-loi légendaire au Texas au temps de la guerre de sécession. Première nouveauté, les 12 chansons que présentait cet album étaient plus concises que d'habitude, bien moins verbeuses. L'instrumentation avait quelque chose de spartiate, juste Bob Dylan, sa guitare folk, son harmonica et une section rythmique du remarquable musicien de Nashville qui l'accompagnait de façon très retenue comme feutré. Cette austérité, ce parti pris de sobriété, se retrouvait jusque sur la pochette qui présentait une photo sépia. On avait l'impression que c'était un cliché pris à la fin du 19e siècle qui représentait Dylan méconnaissable avec un fin collier de barbe, tout sourire, coiffé d'un chapeau noir à large bord. D'ailleurs, il était flanqué de deux personnages costumés de manière étrange. En fait, on l'a appris plus tard, c'était deux musiciens venus d'Inde que le manager de Dylan, Albert Grossman, avait fait venir dans la région de Woodstock pour les enregistrer. C'est là que vivait alors Grossman ainsi que Bob Dylan. Il y avait aussi sur la photo un autre de ses voisins, un vieil artisan qui faisait de la maçonnerie et de la menuiserie. Alors c'était bizarre. On s'était jusque-là habitué à voir Bob Dylan posant comme un acteur de cinéma en gros plan. Et bien là, il avait mis en scène, pour ainsi dire, une sorte d'effacement de sa personne. Mais ce n'était pas qu'une mise en scène. Bob Dylan s'était installé à la campagne, près du village de Woodstock, à peu près à 2 heures de route au nord de New York, où vivait alors une modeste bohème d'artiste. Et avec sa femme Sarah, Dylan était à la tête d'une famille déjà nombreuse, hein, 3 enfants en bas âge, bientôt 4, plus la fille d'ailleurs qu'avait eue Sarah d'un premier mariage. Bob Dylan voulait alors se consacrer aux siens, loin de la ville, loin du bruit. Il avait expliqué à son manager qu'il ne voulait plus participer à ce cirque mondial. On en a eu une idée dans l'épisode précédent, où il s'exhibait en singe savant et gourou de la contre-culture et de l'anticonformisme, un cirque dans le tourbillon duquel il avait failli perdre sa santé mentale. Cette austérité nouvelle correspond donc à la vérité de sa nouvelle existence. Alors ça peut paraître extrêmement surprenant aujourd'hui, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, les Beatles avaient eux aussi pris la décision, dans leur cas irrévocable, après une ultime tournée américaine à l'été 1966, de ne plus jamais donner aucun concert. Trop de pression, trop de folie collective, trop d'épuisement. Et quand on a d'ailleurs demandé à George Harrison, qui allait d'ailleurs devenir très très ami avec Bob Dylan, quelle était l'idée qu'il se faisait du paradis, vous savez ce qu'il a répondu sans hésiter: ne plus jamais partir en tournée. Alors il y a aussi quelque chose d'important à souligner dans l'album John Wesley Harding, c'est qu'en ces temps de surenchère où les groupes comme par exemple Cream, le trio de Eric Clapton, jouent de plus en plus fort, ou bien comme les Doors étirent leurs chansons sur scène à l'infini, où les pochettes des albums sont de plus en plus bariolées, où les musiciens portent des tenues de plus en plus extravagantes, et bien comment dire, Bob Dylan met la sobriété à la mode. Il naît dans cette période, un peu en réaction à tout ce que je viens de décrire, un mouvement de retour aux sources, à la simplicité du blues, du rock'n'roll, de la country aussi, qui seront sensibles dans le double album blanc que les Beatles vont sortir à la fin de l'année 68, tout comme d'ailleurs dans l'album Beggar's Banquet des Rolling Stones. Et là encore, on retrouve la double position de Bob Dylan, un traditionnaliste, toujours obsédé par les vieilles, les très vieilles histoires et traditions, de l'Ancien Testament à la guerre de Sécession, et en même temps quelqu'un qui est toujours à l'avant-garde et qui sert à indiquer le nord aux autres musiciens, des Beatles à Hendrix, en passant par les Stones. Alors c'est une chance, grâce à la publication échelonnée des archives de Bob Dylan, les fameuses Bootleg Series, je vous en ai parlé, et bien dans le 15e volume qui s'appelle Traveling Through, qui est paru il y a un an et demi, et bien on a découvert vraiment des trésors. Comme cette version plus courte et plus rapide d'une des chansons qui figure dans l'album John Wesley Harding, une chanson qui s'appelle I Pity the Poor Immigrant. Une évocation d'un homme qui tombe entre les mains de la mafia. Je dois dire que j'avais pas compris du tout ça quand j'avais découvert la chanson il y a très longtemps. Je l'ai appris en me documentant. Et je cite d'ailleurs le début de la chanson. J'ai pitié du pauvre immigré qui aurait préféré rester dans son pays. On l'oblige à mettre sa force au service du mal et à la fin, on le laisse toujours seul. Ça me fait penser au film de Scorsese, The Irishman, avec De Niro dans le rôle d'un exécutant de bas étage dans un clan mafieux. I pity the poor immigrant who wishes he would have stayed home. Who uses all his power to do evil. End is always left so alone. That man whom with his fingers cheats and whom lies with every breath. Who passion
spent in vain, whose heaven is like iron sands, whose tears are like rain. Man meets but is not satisfied, who hears but does not see, who falls in love with wealth itself and turns his back on me. I pity the poor immigrant who tramples through the mud, who fills his mouth with laughing, who builds his town with blood, whose visions in the final end must shatter like the glass. I pity the poor immigrant when his gladness comes to
Inter.
RTBF La Première.
Very Good Trip, Bob Dylan.
Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while.
held her in my arms. She said she would always stay. But I was cruel, I treated her like a fool. I threw it all away. Once I hid mountains in the palm of my hand, and rivers that ran through every day. That must have been mad. I never knew what I had until I threw it all away. Love is all I had. It makes the world go round. Love and only love, it can't be denied. No matter what you think about it, you just won't be able to do without it. Take a tip from one who's tried. So if you find someone who gives you all of her love, take it to your heart, don't let it stray. Oh, one thing for certain, you will surely be hurting if you throw it all away. If you throw it all away.
Alors Bob Dylan avait déjà, entre guillemets, trahi une première fois son public d'admirateurs quand il avait tourné le dos au milieu politisé de la chanson folk protestataire en 1964, et voilà qu'il trahissait, toujours entre guillemets, une seconde fois. Oui, cette fois-ci, il décontenançait son public de hippies libertaires anti-système qui avait voulu voir en lui le symbole même de l'insolence et de l'anticonformisme. Oui, voilà que sans crier gare, Bob Dylan se mettait à chanter des ballades et des chansons country d'un timbre velouté qu'on ne lui connaissait pas. Cette sorte de mue déconcertante s'expliquait par le fait qu'il avait arrêté de fumer. C'est déjà important. Et puis en plus, on comprenait parfaitement tout ce qu'il disait, ce qui, aux oreilles de certains, pouvait friser la ringardise. Mais oui, où était le Rimbaud, le Kerouac, le beatnik surréaliste qui dynamitait les formes traditionnelles de la chanson populaire? Oui, pour certains, Dylan n'était plus Dylan. Enfin, c'était un autre Dylan et beaucoup ne l'aimaient pas. Prenez les deux chansons qu'on vient d'entendre. La première, Lay Lady Lay, est une chanson d'amour simple, sans malice, sans ironie. Elle évoque le désir physique face à l'être aimé, cette espèce de plénitude qui vous envahit quand on se retrouve face à la bonne personne au bon moment. Et dans la voix de Bob Dylan, on perçoit même quelque chose qui ne s'était jamais fait jour chez lui. Un ton ensoleillé, voire serein, et même de façon fugace, on capte chez lui une sorte de bonheur d'exister. L'album Nashville Skyline paraît au début du printemps 1969, pendant une période où le monde commence à s'assombrir. Émeute raciale aux États-Unis, violence politique, manifestations un peu partout. La pochette de l'album montre, à contre-courant, un Dylan souriant et radieux. Il est photographié en contre-plongée sur fond de ciel sans nuages, coiffé de son galurin champêtre, guitare à la main, et il nous salue amicalement. Bon, Bob Dylan, c'est vrai, même en crooner, n'était ni Elvis, ni Sinatra, pour ça, il resterait toujours de la marge. C'était pas un grand chanteur au sens conventionnel du terme, mais il avait quelque chose que toutes ces grandes voix n'avaient pas. Ce sont ses propres mots qu'il choisissait, comme le fait un poète ou un écrivain. Prenez l'autre chanson d'amour qu'on a entendue juste après Lay Lady Lay, I Threw It All Away. Lui seul était capable de l'écrire et de l'interpréter. Il faut peut-être la traduire trivialement pour en rendre la force. J'ai tout foiré, j'ai tout foutu en l'air. J'avais des montagnes dans le creux de la main, des fleuves y répandaient leurs eaux, mais je me suis comporté comme un fou, un imbécile, et j'ai tout perdu. Il y a ce passage, tellement inattendu par sa candeur enfantine, si on le rapporte à l'œuvre précédente de Dylan, je cite, « Il n'y a que l'amour qui compte, c'est lui qui fait tourner le monde, l'amour et l'amour seul, on peut pas le nier, peu importe votre avis, sans lui, vous êtes perdu, et écoutez ce conseil de la part de quelqu'un qui a essayé de s'en passer. C'est une chanson que un Johnny Cash aurait pu écrire et interpréter. Mais Johnny Cash, il faut le rappeler, en cette période reculée, est très mal perçu par les admirateurs de Bob Dylan et de rock en général. C'est la voix de la chanson country en laquelle beaucoup voient, bien à tort, l'expression d'un monde perçu comme rural et arriéré, conservateur, raciste, réactionnaire, hostile à tout changement. Et pourtant, la musique country, Bob Dylan l'a toujours aimée, à rebours des préjugés et des idées toutes faites, et c'est vers elle qu'il décide, dans ses années 68 et 69, de retourner, en fait. Puisque, tout comme Leonard Cohen, une des grandes admirations de jeunesse de Dylan, c'était Hank Williams, le grand auteur et poète de la chanson country. Et on l'a su par la suite, Johnny Cash a toujours admiré et soutenu Bob Dylan, il partageait d'ailleurs la même maison de disques, Columbia. Et Cash connaissait très bien une des premières chansons de Bob Dylan, Girl from the North Country, à l'origine d'une mélodie du folklore traditionnel des îles britanniques, qu'ils ont magnifiquement chanté ensemble, en duo, en 1969, et c'est par cette version splendide de Girl from the North Country que commençait l'album Nashville Skyline.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine.
See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down, that's the way I remember her best.
If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling.
If you're traveling in the North Country Fair,
where the winds hit heavy
on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of
France Inter,
RTBF La Première,
Mishka Assayas, Very Good Trip, Bob Dylan.
Spanish is a loving tongue, soft as music, late as spring. 'Twas a girl I learned it from, living down Sonora way. I don't look much like a lover, still I hear her love words over. Mostly when I'm all alone, mi amor, mi corazón. On the nights that I would ride, she would listen for my spurs. Throw that big door open wide, raise those laughing eyes of hers. Oh, how the night would go a-flying, all too soon I'd hear her sighing in her sweet and quiet tone. Mi amor, mi corazón. Haven't seen her since that night. I can't cross the line, you know. They want me for a gambling fight. Like as not, it's better so. Still I've always kind of missed her since that last sad night I kissed her. Left her heart, I broke my own. Adios, mi corazón.
Sans doute une des plus belles interprétations de Bob Dylan, seul au piano, d'une chanson qui pourtant n'est pas de lui. Spanish is the loving tongue. L'espagnol est la langue des amoureux. On a découvert cette version il y a quelques années dans un volume des Bootleg Series. Il s'agit d'une vieille chanson remontant au début du XXe siècle et qui s'inscrivait dans un certain courant qu'aux États-Unis on appelait la poésie cowboy. Alors ce sont pas de véritables cowboys qui écrivaient ces chansons, mais des poètes qui aimaient rêver à la vie des aventuriers et hors la loi d'autrefois. En l'occurrence, la chanson met en scène un joueur, un vagabond qui un beau jour a croisé la route d'une belle mexicaine dans le nord de la Californie. Elle lui a dit mi amor, mi corazón, ça s'oublie pas. Encore donc une tradition dans laquelle Bob Dylan aura mis ses pas. Au fond, c'est intéressant à souligner, il aura passé toute sa vie de poète et de chanteur à rêver à de vieilles histoires qu'il n'a pas connues. Des traditions dont l'homme occidental, dans la seconde moitié du XXe siècle, allait de plus en plus être coupé. Oui, Bob Dylan a rêvé à partir des récits d'Homère, des histoires de la Bible, des légendes de la mer, des pièces de Shakespeare, des combats de la guerre de sécession, des histoires du Far West, à tout ce qui, jadis, a rendu la vie de nos ancêtres héroïque, tragique, cruelle, plus ample que la nôtre en tout cas. Et d'ailleurs, il faut le souligner, tout comme Leonard Cohen, Bob Dylan, jeune homme, rêvait de faire la guerre et même rêvait de mourir au combat. Ce sont des rêves que aujourd'hui nos sociétés jugent à juste titre inacceptables. Cependant, il faut pas oublier qu'ils ont nourri le cœur et la tête de nos ancêtres. Et Bob Dylan, cet étonnant archaïque moderne, s'est au fond dressé pour refaire vivre tout ce vieux théâtre dont nos vies sophistiquées, atomisées, consacrées à la consommation, allaient nous éloigner irréversiblement. Alors je vous parlais des années 68-69, Dylan à ce moment-là donc s'est installé à la campagne dans la région de Woodstock avec sa femme et ses enfants. Et entre parenthèses, c'est dans le but d'attirer Bob Dylan que les organisateurs du célèbre festival ont voulu le mettre sur pied en pleine nature, tout près de chez lui. Et peine perdue d'ailleurs parce qu'il a vraiment refusé mordicus d'y aller. En fait, Bob Dylan vit durant cette période une situation absolument délirante. Parce que parmi ses admirateurs, il y a toute une bande de dingues qui se rendent en horde pour le traquer là où il habite. Il y en a même qui montent sur le toit de sa maison la nuit. Dylan les attend, il l'a raconté dans ses mémoires avec des Colts. Et en plus, la police locale lui explique que s'il y a des accidents, s'il y a des gens qui tombent du toit, c'est lui qu'on considérera comme responsable et c'est lui qu'on mettra en tôle. Donc il sait plus quoi faire pour décourager toute cette bande de dingues, il s'enfuit. Il retourne s'installer à New York au début de l'été 69. Et dans une interview qu'il donne alors au magazine Rolling Stone, eh bien il se présente comme un simple musicien sans prétention aucune. Et il publie le double album Self Portrait en été 1970, il faut dire à l'ahurissement général. Pourquoi ? Bah parce qu'il reprend des chansons populaires de variété, certaines carrément vieillottes comme Blue Moon, en les interprétant d'une voix suave de crooner qui agit comme un répulsif sur ses admirateurs. Beaucoup y voient une provocation de sa part, et Greil Marcus, le critique de Rolling Stone devenu depuis un grand historien de la musique, commence sa chronique par cette interrogation restée légendaire « What is this shit ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Alors, rétrospectivement, Dylan expliquera qu'il a délibérément publié ses titres, qui étaient en partie des séances d'échauffement enregistrées à Nashville, pour épouvanter, une fois pour toutes, ceux qui voulaient continuer à le voir comme le gourou de la jeunesse révoltée. Et pourtant, quand on réécoute ce disque aujourd'hui, un disque qui devait d'ailleurs s'appeler « The Folk Songs of America », les chansons populaires de l'Amérique, on est frappé par sa beauté et sa sérénité pastorale. En fait, selon le témoignage de son collaborateur d'alors, l'organiste Al Cooper, Dylan a voulu appeler ce disque « Self-Portrait », finalement, « Autoportrait », parce que ses chansons étaient, pour ainsi dire, celles qui lui avaient donné naissance. Ses chansons, en somme, c'était lui. Et parallèlement, il en a enregistré d'autres dans un studio new-yorkais qu'il publiera à peine quelques mois plus tard, dont une avec l'aide de son nouveau et fidèle ami George Harrison. Voici une version différente et meilleure de If Not For You, une version qu'on a découverte en 1991 dans le premier coffret des Bootleg Series.
Wide awake, the day would surely happen. to break, but it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you. If not for you, the winter would hold no spring. I wouldn't have a clue if not for you. Father of day, Father who taketh the darkness away, Father who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, Father of loneliness and pain, Father of love and Father of rain. Father of day, Father of night, Father of black, Father of white, Father who build the mountains so high, who shapeth the cloud or up in the sky, Father of time and Father of dreams, Father who turneth the rivers and streams. Father of grain, Father of wheat, Father of cold and Father of heat, Father of air and Father of trees, who dwells in our hearts and our memories. Father of minutes, Father of days, Father of whom we most solemnly praise.
France Inter,
RTBF La Première,
Very Good Trip, Bob Dylan.
Sit beside bridges and walk beside fountains, catch the wild fishes that float through the stream. Time passes slow when you're lost in a dream. La 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 la. Once I had a sweetheart, she was fine and good looking. We sat in her kitchen while her mama was cooking, and stared out the window to the stars high above. Time passes slowly when you're searching for love. La 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 la. Ain't no reason to go in the morning to town. Ain't no reason. Ain't no reason to go up, ain't no reason to go down, ain't no reason to go anywhere. Time passes slowly up here in the daylight. We stare straight ahead and try so hard to stay right. Like a cloud drifting over that covers the day. Time passes slowly then fades away. La 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 la.
répétition, vous l'avez entendu, en 1970, d'une des plus belles chansons de l'album New Morning, Time Passes Slowly, qui décrivait de façon poétique la vie que menait Bob Dylan à la campagne, au nord de New York. Le temps passe lentement, quand on est là-haut dans les montagnes, on s'assoit près des ponts et on marche près des sources, on attrape les poissons qui nagent dans le torrent, le temps passe lentement quand on est perdu dans ses rêves. Alors j'étais très jeune, mais je me rappelle parfaitement la sortie de l'album New Morning à la fin de l'année 70. Une sortie mais extrêmement inattendue et assez brusque, quelques mois à peine après Self-Portrait, un album qui avait été tellement décrié, je vous ai raconté juste avant pourquoi. Alors la couverture montrait un portrait sépia de Bob Dylan avec sa barbiche et ses yeux malicieux. Et alors, quand ses admirateurs ont entendu cet album, certains se sont exclamés « Ouf, on nous a rendu Dylan !» Et de fait, le sentiment général, c'est que Bob Dylan avait été piqué par les critiques incendiaires qui avaient plu sur Self-Portrait, et il avait voulu tout de suite rectifier le tir. Alors, bon, ce qu'on peut mettre en avant pour soutenir cette interprétation, c'est que sa voix rauque semblait miraculeusement revenue, en tout cas dans certains titres. Il y avait une chanson en particulier, Day of the Locusts, et dans cette chanson, il évoquait d'une manière assez acide le jour où l'université de Princeton l'avait fait, je cite, docteur en musique. On lui a même fait porter une toge et on lui a remis un diplôme carrément rédigé en latin. Un événement qui, vous pouvez l'imaginer, en a fait ricaner beaucoup à l'époque. Dylan, docteur honoris causa, couronné par une institution, non, franchement, ça collait pas du tout. Alors, dans la chanson, il évoque une sorte d'éblouissement dû à la chaleur, c'est un peu l'étranger de Camus, et tout ce qui retient, c'est le chant des locusts, hein, des criquets, c'était peut-être des cigales d'ailleurs plutôt que des criquets. Alors dans l'album New Morning, il y a aussi une chanson assez énigmatique qui s'appelle « Went to see the gypsy », hein, « Je suis allé voir le gitan », une sorte de vision d'un diseur de bonne aventure dans une chambre d'hôtel obscur et d'une danseuse non moins étrange dans le hall de l'hôtel. Et à la fin de la chanson, la vision s'estompe, c'était un mirage. Et Dylan dit qu'il revoit le soleil se lever sur un paysage de son enfance, dans une petite ville de montagne du Minnesota. Peut-être avait-il à ce moment-là l'impression, à 29 ans, qu'il avait fait le tour de la question, que la boucle était bouclée, que la magie était partie, une fois pour toutes, et ne reviendrait peut-être plus jamais. En tout cas, on sent Bob Dylan comme tout nu dans cette version sans fioritures de Went to See the Gypsy, où il est accompagné à la guitare par le virtuose David Bromberg.
I went to see the gypsy, staying in a big hotel. He smiled when he saw me coming, and he wished me well. His room was dark and crowded, the lights were low and dim. How are you? He asked of me, and I asked the same of him. I went down to the lobby to make a small call out. A pretty dancing girl was there, and she began to shout, go on back to see the gypsy. He can rid you of your fear. He did it in Las Vegas, and he can do it here. Oh, the lights were on the river, shining from outside. I contemplated every move, or at least I tried. I went back to see the gypsy. It was nearly early dawn. The gypsy's door was open, but the gypsy was gone. And that pretty dancing girl, oh, she could not be found. So I watched the sun come rising in a little Minnesota town.
the streets of Rome are filled with rubble, aged footprints are everywhere. You can almost think that you're seeing double on a cold, dark night by the Spanish Stairs. Got to hurry on back to my hotel room, where I got me a date with a pretty little girl from Greece. She promised she'd be right there with me when I paint my masterpiece. I've spent inside the Colosseum, dodging lions and wasting time. Oh, those mighty kings of the jungle, I could hardly stand to see them. It sure has been a long, hot climb. Train wheels running through the back of my memory when I ran on the hilltop following a pack of wild geese. Someday everything is gonna sound like a rhapsody when I paint my masterpiece. Sailing around the world in a dirty gondola, sure wish I hadn't sold my old Victrola. Ain't nothing like that good old rock and roll. I left Rome, pull into Brussels on a plane ride so bumpy that I almost cried. Clergymen in uniform and young girls pulling muscles, everyone was there to greet me when I stepped inside. Newspaper men eating candy had to be held down by big police. Someday everything is gonna be different when I paint that masterpiece.
Ça paraît surprenant, mais pendant trois années, 1971, 1972, 1973, Bob Dylan a donné très peu de nouvelles et n'a pratiquement rien publié. Un 45 tours ici et là, comme Watching the River Flow, un boogie sans prétention, qui commençait drôlement d'ailleurs par cette interrogation de toute évidence adressée à lui-même. C'est quoi mon problème? J'ai pas grand chose à dire. Il est apparu au Madison Square Garden de New York aux côtés de son ami George Harrison pour le concert en faveur des réfugiés du Bangladesh, qui étaient victimes d'une guerre d'indépendance avec le Pakistan et dont le sort en 71 a ému le monde entier. Dylan semble en forme, il participe volontiers aux enregistrements de musiciens amis, comme le musicien texan Doug Sam. On dit de lui, il y a des bruits qui filtrent, qu'il lit la Bible. On croit savoir qu'il enregistre régulièrement dans une maison studio près de son appartement new-yorkais de Greenwich Village, mais enfin rien n'en sort. Et presque personne ne remarque à l'époque cette chanson qu'on vient d'entendre, When I Paint My Masterpiece, quand je peindrai mon chef-d'œuvre, dans laquelle l'accompagne au piano l'excellent Leon Russell, un grand aspirateur de Elton John à l'époque. Ses camarades de The Band enregistrent cette chanson pour leur album de 71, Cahoots, et ce n'est qu'il y a quelques années qu'on a pu découvrir la maquette de cette chanson, bien supérieure à la version qui avait été publiée à l'époque, où Bob Dylan interprète seul au piano, donc When I Paint My Masterpiece. Ce qui est frappant dans le chemin accompli par Bob Dylan en maintenant 60 ans de carrière, c'est toutes les phases de doute qu'il a traversées, un doute souvent paralysant, où il semble avoir avancé dans une sorte de brouillard, sans trop savoir s'il en sortirait un jour. C'est ce qui lui est arrivé d'ailleurs aussi à la fin des années 80, je vous en parlerai bien sûr dans un prochain épisode. Mais puisqu'on en est à parler de chef-d'œuvre, eh bien en voici un qui est né de façon totalement accidentelle. À la fin de l'année 72, Bob Dylan emmène sa famille à Durango, au Nouveau-Mexique. Et c'est une nouvelle expérience pour lui, il va jouer un petit rôle dans un western aux côtés d'un autre chanteur, Kris Kristofferson, et de l'acteur James Coburn, sous la direction du cinéaste Sam Peckinpah. Le film s'appelle Pat Garrett et Billy the Kid. Et Dylan est surtout là pour en composer la musique. Ce seront des instrumentaux de country folk orchestral avec des chœurs. Et alors que plus personne n'attend rien de lui, il a ce coup de génie, Knocking on Heaven's Door. La chanson met dans le film, en scène, les dernières paroles du shérif Colin Baker qui a été abattu au cours d'une fusillade qu'il a mis aux prises avec la bande de Billy the Kid. « Maman, retire-moi mon insigne, il me servira plus à rien, il commence à faire nuit, j'y vois plus rien, j'ai l'impression de taper à la porte du paradis. »
He killed 21 men.
I don't want to kill you, Bill.
No, I sure hope you don't, Billy. And he was just a kid. Billy the Kid.
You take this.
And introducing in his first dramatic motion picture performance,
Plums.
Recording star Bob Dylan.
Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
Et voilà, c'est par ce sommet inattendu de Bob Dylan en 73 que nous achevons cette émission. Knocking on Heaven's Door, évidemment, tout le monde connaît ça. La suite au prochain épisode. Merci beaucoup à Alexandre Moniol qui a réalisé l'émission. Merci à Raphaël Rousseau à la technique et à François Merlin à la discothèque de Radio France. Tout de suite après les informations, eh bien, vous allez déguster avec François-Régis Gaudry. À la prochaine.